Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct ou en podcast. Quand vous consultez une histoire de la philosophie, une absence frappe les esprits, celle des femmes. On s'intéresse ce matin à la puissance des femmes dans le domaine de la pensée. Une pensée qui permet peut-être de réfléchir autrement. Existe-t-il d'ailleurs une philosophie féminine ou alors faut-il ne pas accoler un genre à la pensée? Nous évoquerons également une figure emblématique revendiquée par de nombreuses penseuses féministes, la figure de la sorcière. Avec nous ce matin, la professeure de philosophie Laurence de Villers, l'écrivaine Isabelle Sorante et Sven Ortoli, rédacteur en chef des hors-séries de Philosophie Magazine, notre complice ce matin. N'hésitez pas à participer à notre conversation au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Main Vous Fasse. Trouvez-vous normal, par exemple, qu'au programme du Bac Philo 2019 ne figurait qu'une seule femme, Anna Arendt. Une femme puissante, tous les vendredis, Guillaume Maintenissimo et son esprit d'escalier, vous évoquerez quelques femmes puissantes et inspirantes.
Oui, dans la culture pop, donc peut-être pas à mettre encore au programme de philo, mais on ne sait jamais. Et puis une figure d'aujourd'hui, quelqu'un qui a parlé très récemment.
Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Grand Bien Vous Fasse, Ali Rebbi.
Bonjour Sven Ortoli.
Bonjour.
Vous êtes l'honorable rédacteur en chef des hors-séries de Philosophie Magazine et vous publiez un formidable numéro intitulé « La puissance des femmes, une autre histoire de la pensée ». Bonjour Isabelle Sorante.
Bonjour Ali.
Vous êtes écrivaine, chroniqueuse à Philosophie Magazine, mais également polytechnicienne, pilote, dramaturge. Votre prochain roman, Le complexe de la sorcière, sera publié chez Lattès le 8 janvier prochain. Bonjour Laurence de Villers.
Bonjour Ali Rebbi.
Professeur de philosophie, honorable doyenne de la faculté de philosophie de...
Doyen. Je ne veux pas la féminisation de la fonction.
Pardonnez-moi, doyen de la faculté de philosophie de l'Institut catholique de Paris, spécialiste de Descartes. Vous avez récemment publié au PUF Être quelqu'un de bien. Sven Ortoli, il est peut-être temps d'affirmer haut et fort que les femmes ont contribué largement à l'histoire de la pensée, n'en déplaise au sosie de Tullius Détritus, le personnage dans la zizanie d'Astérix, qui a jadis publié un pamphlet contre la féminisation de nos sociétés. Je crois que vous avez deviné de qui je voulais parler, je ne vais pas le citer. L'idée de ce hors-série, c'est de faire émerger un continent oublié, celui de la pensée des femmes.
Est-ce qu'on peut résumer mieux que ça? Je crois pas. Le fait est que ce matin, j'ai essayé de résumer d'une phrase le hors-série ce matin en pensant à l'émission et j'ai vu ma fille qui est lycéenne partir au lycée. Elle avait un tote bag, une espèce de sac à main avec une inscription. L'inscription c'était de Beauvoir. C'était ce qu'il y a de plus scandaleux dans le scandale, c'est qu'on s'y habitue. Donc c'est Simone de Beauvoir. Et au fond, je me dis aujourd'hui tout le monde, enfin tout le monde, presque tout le monde, qu'on se dit oui, bien sûr, c'est un scandale que la domination des hommes sur les femmes existe encore. Mais dans la réalité, tout le monde est d'accord pour dire non, il n'y a pas de différence fondamentale. Il y a aucune raison pour que les femmes n'aient pas les mêmes rôles que les hommes, etc., etc. Tout le monde est d'accord pour dire ça, mais dans les faits, on est très très loin évidemment. Et c'est ça le scandale, c'est-à-dire qu'on s'habitue. Parce que, au fond, pour changer une société, pour changer une manière de vivre, une manière de penser, c'est compliqué, c'est dur, faut penser déjà. Faut penser, puis faut agir. Et ça, c'est le premier problème, si vous voulez, auquel on s'est confronté nous-mêmes à Philomac quand on a voulu faire ce numéro sur la puissance des femmes. Parce que l'idée, c'est très bien, c'est dégueulasse, c'est pas bien, il y a partout, et en philosophie en particulier. En philosophie, c'est assez parlant. Et même la première réunion de rédaction de Philomag sur le thème, on s'est regardé, et un peu comme, vous savez, on disait qu'à Rome, les astrologues ne pouvaient pas se regarder sans rire, il y avait 4 mecs. Donc, on a dit, ok, on change, ça va, donc on a un petit peu changé les choses, et puis on s'est posé la question, c'est très bien, est-ce que c'est faire un numéro, un petit peu un bonbon, on va dire, tiens, on va rassembler, alors là, on est d'accord, les femmes c'est égal des hommes, et on rassemble ce qu'elles ont dit de mieux à travers les siècles dans un hors-série. Après, on aura fait le job, et évidemment, ce qu'on découvre, c'est que non seulement il y a une pensée qui est présente en filigrane tout au long des siècles, mais c'est une pensée qui a été oblitérée, qui a été effacée. Et c'est une pensée qui est d'une, évidemment très riche. Il suffit de se plonger. J'espère qu'on va le faire au cours de l'émission. Je sais plus ce que je voulais dire tellement je suis enthousiaste. Mais, c'est un vrai scandale. C'est-à-dire, là, c'est là le scandale dont je parlais tout à l'heure. C'est, ah mince, il y avait tout ça. Et il y a tout ça. Mais il faut faire l'effort d'y aller.
Laurence de Villers, quand on ouvre une histoire de la philosophie, quasiment aucune femme, sauf quand on aborde le XXe siècle avec de grandes figures qui apparaissent comme Simone Veil, Anna Arendt, Simone de Beauvoir ou encore Judith Butler. Ça veut dire quoi être une femme philosophe? Est-ce qu'il existe une pensée spécifiquement féminine?
Beaucoup de questions, Ali. On ouvre une histoire de la philosophie, alors effectivement, on a l'impression que les femmes naissent au XXe siècle, qu'elles se mettent à penser, qu'elles ont un cogito seulement au XXe siècle. Moi, je suis une spécialiste de Descartes, vous le disiez, donc au XVIIe siècle, on essaie péniblement de dire qu'il y a Élisabeth, parce qu'elle écrit à Descartes, hein, c'est son seul intérêt, donc il y a une femme au XVIIe siècle, apparemment, qui pense. Donc, oui, et Sven Ordeli le disait parfaitement, c'est que la question, c'est pas tant de savoir qu'on dit les femmes sur les femmes en philosophie ou qu'on dit les femmes sur les femmes, c'est de savoir de sortir du placard où on les a mises les femmes qu'on pensait tout court. Et ce qui sera encore mieux, c'est de dire les philosophes qu'on pensait. Qu'elles soient femmes ou pas, ça devrait rien changer. Maintenant, être une femme en philosophie, ah oui, c'est une situation, je dirais, périlleuse, délicate, rare. Oui, c'est très difficile.
Je m'adresse au doyen de la faculté de philosophie de l'Institut catholique de Paris. Sur les 57 auteurs qui figuraient au programme du bac philo 2019, une seule femme, Anna Arendt, au bac philo 2020, au programme, elles seront 5 sur 83 penseurs.
C'est déjà mieux. C'est déjà mieux. Il y en a un tout petit peu plus.
Il y a plus d'hommes aussi, hein.
Comment?
Il y a plus d'hommes. Pour le bac philo 2020.
Donc c'est pas bien.
Non, le ratio est le même que...
Ça change pas en réalité, ça change pas.
Isabelle Sorrente,
oui,
sur cette question-là, de la quasi-absence des femmes, des programmes de philosophie au bac philo.
Mais parce que nous, notre force, c'est le marché noir. On est toujours du côté des hérétiques. C'est pour ça que je pense que la force des femmes, on aide les hommes aussi. Parce que si on regarde le numéro dirigé par Sven, on voit que c'est toute... des résistantes en fait, toujours à côté du dogme, toujours à côté de l'institution. Et là on aide les hommes parce que nous on est à l'avant-garde de l'individu. Et c'est ça notre force, c'est toujours par en dessous, c'est toujours... Et la réalité, il y a plein de choses qui se font en marché noir. Donc c'est une force.
Est-ce qu'il existe une pensée spécifiquement féminine pour vous?
J'en sais rien, je pense qu'on est tous des chercheurs de vérité et que quand on est femme, en fait, on intègre ces siècles et ces siècles et ces siècles d'avoir été dominées. Donc c'est comme si on embrasse un archétype, donc on a la galère qui va avec ça, parce que c'est dur. Mais en même temps, quand on se met à chercher la vérité, on est plus forte, parce que toutes les femmes, on est bilingues. On parle à la fois votre langue, la langue des dominants, hein, il faut dire. Et à la fois, on a notre langue oubliée, où il manque plein de mots, où il y a plein de trous, où dans l'histoire, on ne nous a pas dit ceci, cela. Donc on est bilingue, c'est fort d'être bilingue.
Laurence Villers.
Pensée féminine, moi je dirais non. Enfin, pas au sens où il n'y en a pas, ou au sens où il ne faudrait surtout pas croire qu'il y en a une. Moi, ce qui me gêne, c'est quand le féminin est à chaque fois l'adjectif qu'on ajoute. Je prends l'exemple de Simone de Beauvoir, qu'on ne cesse de citer pour prouver qu'il y a des femmes philosophes, etc. Mais on lit le deuxième sexe, on ne lit pas ses ouvrages de philosophie. En fait, moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'on lise Simone de Beauvoir comme on lit Sartre et qu'on arrête d'abord de dire son prénom. Vous avez remarqué que pour les philosophes, on dit Ricoeur, mais Anna Arendt. Bah non, Arendt. Pourquoi pour les femmes on mettrait le prénom? C'est comme si en fait elles étaient déjà en deçà, en dessous de la bonne catégorie, hein, ces auteurs tellement célèbres et tellement forts, puissants, qu'on dit même plus leur prénom. Donc moi je militerais vraiment pour que le féminin soit jamais quelque chose qu'on ajoute.
Comment avez-vous réagi le jour où, au sujet de votre thèse universitaire, un éminent professeur vous a déconseillé de vous atteler à une thèse consacrée à la métaphysique de Descartes? Il vous a dit, assurément, pas un sujet pour une femme.
Oui, je lui ai demandé conseil, j'étais en début de choix de thèse, et je lui avais demandé si je pouvais travailler sur la connaissance de Dieu chez Descartes, et il m'a effectivement répondu, non, c'est assurément pas un sujet pour une femme. Et vous me demandez comment j'ai réagi, je l'ai regardé parce que je pensais qu'il faisait de l'ironie. Alors, de nos jours, je pense que même si c'était ironique, ça serait bien, pas bien reçu, il était absolument pas ironique. Et il m'a proposé des sujets qu'il considérait comme des sujets féminins.
les sentiments chez les Anglais, chez les philosophes anglais, etc. Et bon, vous me direz, je suis âgée maintenant, donc ça fait longtemps, mais je suis pas certaine que les choses changent vraiment de nos jours.
Oui, pour rebondir là-dessus, moi, quelque chose qui m'avait sidérée, c'était dans les premières retraites bouddhistes zen que j'ai faites. C'était un monde où les hommes avaient l'air toujours genre Alan Watts ou Peter Matthiessen, très très épanouis, alors que les femmes, elles avaient l'air un peu serviles, genre attendant gentiment l'illumination, sans faire de bruit, marchant à petits pas. Et en fait, un jour, j'avais appris cette chose qui est très connue, c'est que les femmes sont censées prier pour se réincarner en homme parce que on peut pas avoir l'éveil nous du premier coup comme ça. Et ça m'avait mis vachement en colère. Et je m'étais dit, non, c'est ça l'inégalité aussi profonde. Et quand on découvre ça, on découvre, je pense, en même temps notre force, parce que il faut voir la résistance qu'on met. La volonté qu'il y a derrière. Je pense que nous, on est un peu des guerrières, c'est-à-dire qu'on combat des démons ou des obstacles dont un homme n'a pas les mêmes. Ou en tout cas, un homme a les bonnes cartes.
Guillemette Odissino.
Je suis assez d'accord, mais en même temps, on combat aussi quelque chose un ennemi atroce, c'est le silence, fait. Et ça, c'est très, très... Je trouvais ça très, très, très beau, ce que vous disiez, Sven. C'est que le problème, c'est pas simplement l'histoire de la philosophie féminine ou l'histoire de la pensée féminine. C'est l'histoire du silence, c'est l'histoire du couvercle qu'on a posé dessus. Donc, en fait, c'est une double histoire. Alors oui, la résistance, bien sûr. Après, on en parlera sûrement plus tard, mais il y a des femmes qui sont, hélas, plus cortiquées ou pour résister, et d'autres qui se taisent ou qui ne sont jamais entendues. Donc, il y a vraiment quelque chose là-dessus, sur la notion de ce patriarcat, effectivement, à la fois scandaleux et tellement naturel.
Laurence de Villers.
Tellement naturel, je crois que c'est le mot. C'est-à-dire que, alors évidemment, là, je parle d'impression et de ressenti, je ne parle pas de doctrine établie. Quoique, on a le sentiment que le masculin qui fait de la philosophie, puisque c'était votre question, Ali, le masculin qui fait de la philosophie, c'est naturel. Enfin, il le peut, en tout cas. Il en a le pouvoir, la capacité. Une femme qui le fait, c'est étonnant. Donc, il faut qu'elle prouve qu'elle en est capable. Donc, la femme doit toujours avancer une double capacité. C'est-à-dire que, étant femme, elle peut quand même faire quelque chose comme faire de la philosophie. Et hélas, je trouve que le piège, c'est quand elle le fait, on va la ramener au féminin. On va dire, ah ben t'es une femme qui fait de la métaphysique, ou t'es une femme, ou je pensais à Isabelle Sorrente, t'es une femme qui est pilote. Ben non, t'es pilote, enfin t'es philosophe, t'es prof, c'est pour ça que je veux pas la féminisation de la fonction. Il y a doyen, pilote, animateur, producteur,
cinéaste,
et d'ajouter le féminin, je trouve que ça montre que, comme si le féminin faisait les choses, mais différemment, enfin, ça ajoute toujours une différence.
Allez, n'hésitez pas à participer à notre conversation au 01 45 24 7000 sur la page Facebook de Grand Vous Fasse et sur l'appli France Inter. Que pensez-vous, par exemple, de la sous-représentation des femmes dans les programmes du bac philo? Alexia Rivière, Claire Destacan et Dimitri Hainaut m'ont aidé à préparer cette émission, réalisée par Stéphanie Texier. Belle journée à l'écoute de France Inter. I fell for everything. You held me down, but I got up. All right. Katy Perry interprétait Roar.
Tout ce qui est mal n'est que force et laideur.
Grand bien vous fasse.
Tout ce qui est femelle n'est que douceur et tendresse.
Sur France Inter.
Les invités se moquent de mon accent, c'est horrible ce que je vis dans ce studio. 10h23 et on s'intéresse ce matin à la puissance des femmes dans le domaine de la pensée avec la complicité de Philosophie Magazine qui consacre sa une à la puissance des femmes. Que vous inspire d'ailleurs ce titre, la puissance des femmes? Puissance, nous dit Le Robert, est une chose qui a un grand pouvoir, produit de grands effets. C'est également une catégorie, un groupement de personnes qui ont un grand pouvoir de fait dans la société. Isabelle Sorante, écrivaine.
Moi, ça m'inspire deux choses. D'abord, un sentiment de joie. En écrivant pour Sven et ensuite en lisant le numéro, quand je l'ai reçu, j'ai ressenti une grande joie parce que j'ai vu toute cette variété de points de vue, toute cette sororité, pour emprunter ce mot à Chloé Delhomme, pour qui il compte beaucoup. Et ça, c'était mon sentiment, la joie. Le deuxième sentiment que j'ai, c'est que pour moi, la puissance, elle est très associée à la recherche de la vérité, qui pour une femme est un chemin pavé d'embûches et de démons, puisque historiquement, les femmes qui cherchaient la vérité, ben, on les brûlait donc, pendant des siècles. Donc du coup, nous, quand on se met à chercher la vérité, ben, il faut imaginer qu'on est très motivé.
Laurence de Villers, doyen de la faculté de philosophie de l'Institut catholique de Paris, ça a fait réagir hein, nos auditeurs quand vous avez tout à l'heure refusé la féminisation de votre titre. Et vous avez répondu juste avant le disque. Sur la question de la puissance.
Mais comme Isabelle Sorante, moi j'étais ravie de participer à ce numéro. L'auteur que m'a confié Sven est un auteur que j'appréciais déjà beaucoup et déjà que je connaissais, parce que le problème des femmes c'est qu'elles soient connues. Donc j'étais ravie de pouvoir me servir d'elle pour dire ce que j'ai pu dire très librement.
Ariette...
Taylor, Mille. Donc j'étais d'abord je félicite aussi Philosophie Magazine qui laisse absolument libre d'écrire ce qu'on veut sur ce qu'on veut, donc ça compte. Maintenant puissance des femmes. Alors vous allez dire bah oui, vous me reconnaissez bien là. Je préfère qu'on parle de puissance tout court et qu'on parle de puissance entravée parce que vous l'avez dit, puissance c'est pouvoir. C'est le pouvoir de pouvoir faire. Donc effectivement, les femmes n'ont pas le pouvoir de faire. Mais ce qui compte pour moi, c'est un philosophe puissant, encore une fois, qu'il soit un homme ou une femme. Tant pis, moi j'aimerais encore une fois qu'on lise les femmes comme on lit Descartes, Sartre, Merleau-Ponty, etc.
L'une des fonctions de la puissance de la pensée, bah, c'est d'être inspirante. Et je cite la philosophe et chercheuse Vinciane Després, qui écrit dans le Philosophie Magazine « La puissance des femmes est une puissance de relais. Une femme devient puissante parce qu'une autre femme puissante a suscité sa puissance. » Et elle ajoute « Une femme puissante entre guillemets, peut d'ailleurs être un homme. » Isabelle Sorante, vous êtes d'accord avec ça?
Ah, complètement. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai d'ailleurs éprouvé quand je faisais mes recherches sur les sorcières. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que, bien sûr, les siècles des grandes chasses avaient laissé une empreinte psychique dans la psyché des femmes, hein, puisque forcément, il y a ce doute de soi. Hein. Il faut rappeler que pendant que Descartes écrivait « Je pense, donc je suis », eh bien, l'équivalent pour les gens en chambre de torture et essentiellement les femmes, c'était « Qui suis-je ? As-tu été au sabbat ?» Voilà l'équivalent du cogito pour nous. Donc on est les héritières de ça. Et en même temps, les hommes ont aussi hérité de ça. C'est-à-dire que pendant ces siècles de chasse, ils ont été amputés. Il y a eu ce partage aussi violent que les partages de territoire après les guerres, de dire, eh ben, d'un côté on aura la rationalité et de l'autre les émotions. Et ça, c'est horrible pour tous. Oui, et donc, c'est ça à quoi il faut remédier.
Absolument, ce partage dont on n'est pas sorti. C'est-à-dire que les femmes, c'est le psychologique. Il est très difficile.
La sensibilité.
Ben là, c'est parce que vous êtes plus raffinée, Ali. Les femmes, c'est le psychologique. C'est-à-dire que dès que vous parlez, quelle que soit votre fonction, philosophe, doyen, etc., on ramènera ce que vous êtes à du psychologique. Donc il y a une prison pour les femmes, une salle de torture, si je reprends le terme d'Isabelle Sorante, qui est le psychologique. Un homme est comme celui qui est détaché du psychologique, il est ce qu'il est. La femme, elle est ce que son psychisme fait d'elle.
Guillemette Odissino.
Oui, je trouve ça très intéressant, cette séparation entre, disons, émotion et penser. Et c'est ça, en fait, qu'il faut absolument dire et répéter quand on parle de féminisme. C'est que le féminisme compte aussi pour les hommes. Parce que le féminisme, c'est aussi dire aux hommes que eux ont le droit de toucher à l'émotion. C'est un échange. Ils nous donnent un peu de droit à la pensée, on leur donne un peu de droit à l'émotion, et on est tous potes, et même on est tous sœurs, parce que c'est vraiment très beau cette notion de sororité. Et je pense que la puissance dont vous parliez, Ali, autant elle est difficilement atteignable peut-être quand on est seul, une femme seule, ou une... En revanche, c'est le collectif, c'est la sororité qui la sororité, y compris avec des hommes puissants mais qui écoutent les femmes ou qui les portent. Et c'est, cette sororité, elle est absolument essentielle pour cette puissance.
Je suis 100% d'accord.
Sven Ortoli, dans le hors-série de Philosophie Magazine, vous explorez la pensée de femmes puissantes qui ont marqué l'histoire de la pensée. Oui. Dans la pensée antique, bah, il faut chercher les femmes. Ce sont les grandes oubliées de la pensée grecque. Et il faudrait, par exemple, rendre grâce à la puissance de la pensée d'Hypatie, à la fois mathématicienne, astronome, philosophe. Hypatie, H-Y-P-A-T-I-E.
Hypatie, c'est curieux, c'est une figure qui est beaucoup dans notre mythologie contemporaine. Elle le mérite, c'est pas, je dis pas le contraire, il y a d'autres figures, mais elle est restée parce qu'elle intervient à la fin de passage compliqué dans l'Empire romain, vous savez, où il y a un empereur qui est l'empereur Julien, qui a pris le pouvoir, qui a repoussé les empereurs chrétiens, et puis ça s'effondre, cette fois c'est la fin véritablement de l'Empire romain païen, et c'est l'Empire romain chrétien qui prend le dessus. Et donc Hypatie, elle est à Alexandrie, qui est vraiment un creuset extraordinaire de pensée, en particulier de pensée technique, elle est la fille d'un grand mathématicien, et elle est elle-même une très grande mathématicienne, une philosophe, elle prend la tête de l'école, d'une école de philosophie, et elle finit, elle a une fin tragique puisqu'elle, Alexandrie, il y a des factions et en particulier des chrétiens complètement dingos,
fanatisés,
c'est pas la seule période de l'histoire où il y a des chrétiens fanatisés, hein, mais en l'occurrence là c'est des chrétiens et qui vont finir par la mettre en pièces et la brûler. Donc elle a cette légende qui s'attache à elle. Après, est-ce qu'on se souvient de sa philo? Malheureusement,
Laurence de Villers,
comme toujours, ça disparaît.
Et ben voilà, c'est ça. Voilà le problème. C'est-à-dire qu'on parle d'Hypatie, on en fait une figure, on en fait presque une militante. Mais est-ce qu'on la lit? C'est ça. C'est que, pour moi, c'est exactement ce qui va arriver aussi à Simone de Beauvoir.
Alors,
c'est
on n'est pas Plotin non plus, faut dire les choses, oui, mais on est simplement les...
Oui, mais comme Simone de Beauvoir, c'est-à-dire que, alors, encore une fois, dans le meilleur des cas, on a lu le deuxième sexe, c'est-à-dire la Simone de Beauvoir féministe, mais la Simone de Beauvoir philosophe existentialiste, bah, ça reste à venir.
Guillemette Odissino.
Je peux conseiller un film, pardon, mais Hypatie est l'héroïne d'un film qui s'appelle Agora, de Alejandro Amenábar.
Chef-d'œuvre.
Et c'est un film épatant. Exact. C'est-à-dire que, vous savez, ceux qui aiment pas trop les films en jupette, quoi, hein, les péplums. Là, c'est un péplum philosophique, féministe. Et ce film est épatant. Et on montre au moins, peut-être qu'on comprend pas énormément la pensée d'Hypatie, mais en revanche, on voit à quel point elle est supérieure aux hommes, au moins à son époque.
Oui. Isabelle Sorrente.
J'ai adoré ce film aussi, et en plus, il a une espèce de violence esthétique absolument parfaite, et on voit aussi le fanatisme, oui. Hein, c'est-à-dire que les chrétiens montrés dans le film ont quelque chose de taliban, et donc du coup, ils résonnent à travers les âges.
Sven Ortoli, au Moyen-Âge, à la Renaissance, quelles sont les figures de penseuses qui restent encore aujourd'hui, entre guillemets, d'actualité? Je pense, on entend par exemple la mystique bénédictine, Hildegarde de Bingen, mais elles sont peu nombreuses, ces penseuses du Moyen-Âge et de la Renaissance
Par rapport au monde grec, on passe un palier malgré tout. Sur le monde grec, juste en un mot, il y a tout de même cette fameuse phrase de Pénélope et de Télémaque dans l'Odyssée, où Pénélope descend pour voir les prétendants. Il y a un barde, un type qui est en train de chanter, et ça la rend triste, elle dit stop. Et là, son fils, qui a un genou, alors que c'est une femme mûre, c'est elle qui a dirigé le royaume pendant des années, lui dit « Tais-toi maman, ça c'est pour les hommes, réflexion sur la guerre ». Donc ce « tais-toi » est assez fondateur dans l'histoire de la pensée en Occident. au Moyen-Âge. Vous avez cité Hildegarde de Bingen. Il y a plein de gens. Il y a Marguerite Porrette, moi, que j'aime beaucoup parce que c'est des béguines et que les béguines, c'est les premières communautés de femmes. C'est pas forcément des religieuses, hein. C'est des communautés de femmes qui se mettent ensemble. Et Marguerite Porrette qui préfère être brûlée. Elle va être brûlée, d'ailleurs, en place de grève plutôt que de renier ses idées. Donc c'est une rebelle. Et Isabelle Trépigny.
Isabelle
Trépigny,
c'est pour Isabelle. J'adore Marguerite Porrette. Il faut savoir qu'en plus, on avait déjà brûlé son livre Le miroir des âmes simples et anéanties. Et elle l'a refait. Elle était prête à être brûlée pour que son livre traverse.
Quel titre merveilleux.
Et c'est absolument magnifique. C'est un livre mystique qui a sans doute inspiré Maître Eckhart. Et aussi, je trouve que l'exemple de Marguerite Porrette, il est magnifique parce que il y a eu une époque, justement, un peu avant la fin du XVe siècle, donc un siècle avant, où il y avait beaucoup plus de liberté spirituelle. Et souvent, les femmes comme Marguerite étaient des emblèmes de saintes qui n'étaient pas canonisées par l'Église, mais qui étaient comme ça reconnues par le peuple. Et je pense aussi que la puissance spirituelle des femmes est associée à la liberté spirituelle, au fait qu'il y a beaucoup de manières de chercher. Et quand on perd ça, tout le monde perd beaucoup.
La mystique a été un espace de liberté, un espace d'existence pour les femmes, et avec cette puissance qui était celle de l'anticonformisme. C'est-à-dire que c'était une manière, la théologie mystique, de lutter contre la théologie scolaire, celle qui était enseignée et enseignée par des hommes. Donc effectivement, les femmes se sont trouvées, comme elles étaient chassées de la scène principale, elles se sont trouvées des coulisses où exister, et je trouve que c'est un bon exemple, la mystique.
Et y compris d'ailleurs, pas seulement dans le monde occidental, mais dans le monde chez les soufis en particulier, Rabia al-Adawiya al-Kaïsiya, je le lis parce que j'ai toujours un peu de mal à retenir son nom, au 8e siècle, fait partie de ces personnalités importantes, dont on retient simplement quelques mots, comme ça, à droite à gauche, c'est-à-dire des traits, quasiment des traits d'esprit, des traits d'idées en réalité, mais qui signifient, c'est comme un iceberg, si vous voyez une petite pointe d'un mot, il reste rien, mais derrière on sent qu'il y a une profondeur.
Isabelle Sorrent, une figure de femme parée d'une puissance inquiétante, hante nos imaginaires, c'est la sorcière, oui. Une figure protéiforme qui a permis de museler, d'annihiler, de combattre, d'éliminer, d'étouffer la puissance des femmes.
Oui, c'est-à-dire que ça s'est passé juste après l'invention de l'imprimerie. En fait, je pense que c'est la création du portrait robot de la sorcière démoniaque qui visait en réalité qui ? Les sages-femmes, les guérisseuses, et donc même ces mystiques, on pourrait dire ce qu'on appellerait aujourd'hui des maîtres, comme quand vous voyagez en Orient, vous avez des maîtres hommes ou femmes, qui visaient ces personnes-là, qui étaient libres.
Célibataires,
souvent. Qui vivaient en dehors des villes. Mais le type même du sage, en fait, qui ne peut pas, qui est toujours un petit peu en marge, un petit peu de côté, eh bien, en fait, il y a eu ces livres abominables, hein, qui sont notamment le Maleus Maleficarum et puis le
Formicaius. D'Heinrich Kramer et de Jacob Sprenger.
Voilà.
Le Maleus Maleficarum, qui veut dire le marteau de la sorcière. Oui. Et ce livre a joué un rôle considérable dans la fabrication de la sorcière monstrueuse maléfique et dans leur chasse.
Oui, tout à fait, parce que c'était le manuel technique. En fait, c'est un moment où on met en place des procédures, et c'est des procédures de questions, donc de torture. C'est un livre qui est, on va dire, basé sur des recherches de terrain, puisque c'est deux inquisiteurs qui l'ont écrit, et ils racontent tous les aveux des femmes, donc faits dans le délire de la torture. Et à partir de là, il y avait, comme toujours pour les pensées fanatiques et pour les génocides, il faut un socle théorique. À partir de là, le socle théorique était né, et ce qu'il y a de terrible, c'est que ça s'est fait dans la modernité, finalement. Donc ça a été diffusé à grande échelle. Il faut voir que c'est 30 000 exemplaires, le Maleus. C'est énorme pour l'époque.
Une femme libre penseuse, anticonformiste, était souvent assimilée à une sorcière.
Souvent, et probablement presque toujours. Et ce qu'il y a de très intéressant, c'est qu'il faut voir que l'ampleur des condamnations fait que pour nous, les Européens, toute l'Europe, on est tous les descendants des sorcières. Tous.
Expliquez-nous.
Eh bien, c'est-à-dire que on peut être sûr que même s'il n'y a pas eu, on ne sait pas, vous avez peut-être eu une sorcière dans vos arrière-arrière-arrière-grand-mères. Et si vous n'en avez pas une, vous pouvez être sûr à 100% que vous avez eu une petite voisine ou une petite cousine qui a vu brûler son ami ou sa mère. Vous voyez, c'est du sûr. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça ?
Laurence de Villers.
Je soulignais simplement que la sorcière était une femme seule. Alors la femme seule, c'est un danger. Enfin, c'est une figure, si j'exagère un peu, mais ça va dans le sens de ce que disait Isabelle, c'est une figure démoniaque. Pourquoi ? Parce que la femme, elle doit être appareillée. Elle doit être avec quelqu'un. Alors, soit elle doit être tutorisée, d'une certaine façon, on ne peut pas la laisser seule. Et si on la laisse seule... En fait, elle devient un danger parce que elle rentre pas dans une case. Elle est pas une mère, elle est pas une épouse. Elle est une sœur, mais une sœur qui vit seule. Donc, je crois qu'on a encore quelque chose à faire autour de cette figure, la célibataire. En fait, la célibataire, c'est ce qui reste la chose la plus incroyable.
Isabelle Sorrent, comment expliquez-vous que la sorcière soit devenue une figure très très forte chez de nombreuses penseuses féministes contemporaines? Je pense au succès inouï de l'ouvrage de Mona Chollet, par exemple.
Eh bien, parce que je pense que la sorcière, c'est l'individu. C'est aussi une figure qui a été reprise par des hommes. C'est aussi une figure qui a été reprise par Goethe dans Faust, quand il dit les mères, la sorcière. Et la sorcière, c'est l'individu. Parce que finalement, ces femmes-là, qu'est-ce que c'est cette femme qui est seule ou qui vit avec ses sœurs ou qui vit en marge? C'est comme les premiers franciscains. C'est l'individu. Qui est celui qui cherche la mystique? C'est l'individu. Qui est celui qui résiste? C'est l'individu. La sorcière, c'est l'individu. Et nous, les femmes, on a finalement la chance d'être d'avoir incarné cet individu. Donc, les féministes, on travaille aussi pour les hommes, on travaille pour l'individu.
Alors, dans leur série de Philosophie Magazine, Elisabeth Badinter n'est pas tendre avec ce nouveau discours féministe qui défend la figure de la sorcière, je la cite. « Je suis à l'opposé de ce féminisme-là, stupéfaite que le mythe de la femme nature fasse retour. Je suis encore plus remontée contre ce discours pseudo-écologique qui ranime l'idée d'une nature féminine protectrice et bienveillante qui permettrait de nous sauver d'une civilisation cartésienne et masculine responsable de la catastrophe écologique. »
Mais en fait, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que la sorcière, au contraire, c'est une femme qui pense. C'est pas une grande naturaliste qui court avec les loups. C'est une femme qui pense.
Laurence de Villers.
Ce que veut dire Elisabeth Badinter, c'est l'idée qu'on soutiendrait derrière qu'il y a une nature féminine. Il y aurait une...
Vaste débat au sein des féministes.
Hein. Oui, mais dont on sort pas, parce que c'est ça qui est au cœur. Est-ce qu'il y aurait quelque chose comme... Encore une fois, je disais, je refuse le féminin comme adjectif, mais parce que souvent, il vient comme adjectif à nature. Il y aurait une nature féminine. Par exemple, moi, je ne supporte pas le discours qui dirait, oui, mais la femme dans le monde du travail, elle apporte l'empathie, la sensibilité. Non, elle apporte ses compétences ou sa nullité. Comme les autres. Moi, je revendiquerais pour les femmes le fait qu'il n'y a pas une nature féminine. Il y a des singularités. Il y a vous, il y a moi, Ali. Voilà. Il se trouve que je suis une femme, mais bon, ça change rien. Parce que derrière, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On empêche la femme d'avoir le droit d'être bête comme un homme. Il faudrait qu'elle apporte des qualités, des vertus, des choses différentes. Et du coup, comme on parle pas d'elle comme une personne puissante ou compétente comme un homme, eh ben, elle a plus le droit à l'erreur.
Guillemette Odissino.
Non, mais moi, je suis surtout pas d'accord avec cette espèce de légende de sauvagerie, là, et puis de
pour la sorcière.
Oui, pour la sorcière, de nature, etc. Oui, effectivement, mais c'est pas parce qu'elles étaient en avance, en sachant se servir des herbes, ou en sachant accoucher des enfants, que pour autant, c'est la nature.
En pensant autrement.
Oui, enfin, elles étaient juste en avance, mais c'est pas pour autant que c'est la nature féminine. De toute façon, cette histoire de nature féminine, c'est pas elle qui l'ont, disons, créé en étant un peu à la marge. Bah cette espèce de nature féminine dangereuse ou soi-disant porteuse de dangerosité, c'est justement ceux qui les ont brûlés qui ont créé ce truc-là.
Mais justement, faut pas endosser l'idée qu'il y aurait du féminin.
Mais faut pas non plus refuser justement cette notion purement féminine qui a été piétinée. Oui. Parce que autrement, on revient dans le sens des bourreaux.
Mais je pense que en fait, il y a on confond peut-être souvent un argument biologique avec un argument culturel. Moi, je crois à la profondeur des archétypes. C'était une discussion que j'avais eue avec Judith Butler, justement. C'est-à-dire, autant je suis pas naturaliste du tout. C'est-à-dire que je crois pas que le biologique me détermine à 100%. Par contre, je crois que étant ici occidentale, d'une mère italienne, d'un père alsacien, je suis tout à fait européenne, et que donc, étant européenne, j'ai un karma européen, et que toute l'histoire des chasses aux sorcières me concerne. Et ça, en tant que femme, elle me concerne forcément d'une manière différente que les hommes, parce que les archétypes que j'incarne ne sont pas les mêmes. Mais ce n'est pas biologique, ce n'est pas naturaliste.
Et à propos des sorcières, je signale l'apparition du livre Les sorcières de Céline Chesnais, la première histoire culturelle et visuelle des sorcières, coéditée par France Culture et Michel Lafon. Allez, vous pouvez participer à notre conversation au 01 45 24 7000.
Pas, même si tout ça est harassant parfois. Jimmy a le regard troublé, Jimmy le sait. C'est désormais sur celle-ci que s'orientent ses yeux conquis. Jimmy enchaîne les blagues, Jimmy divague, pensant déjà à la belle bague qui ornerait le doigt de sa future femme. Jimmy tarte terrain, Jimmy sent bien comme c'est terriblement grisant de s'attacher ainsi. S'approche, trop près de celle pour qui Jimmy s'accroche. Jimmy charme, Jimmy gagne la confiance de sa belle qui se laisse couler sous les draps jusqu'au souper. En s'oubliant, se laisser vivre. Jimmy a réussi son coup dans la rue à son bras à dulciner. Et Jimmy projette déjà beaucoup ses plans sur la comète, un jour des enfants à son cou. Jimmy voit très bien que les yeux étrangers regardent les siens. C'est sa première fois, sa première femme. C'est vrai, c'est pas la première fois qu'on les observe passer. La nuit, Jimmy.
Aloïse Sauvage interprété Jimmy.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rebi.
10h45 et on s'intéresse ce matin à la puissance des femmes dans le domaine de la pensée. Vous pouvez nous appeler au 01 45 24 7000.
Héloïse, voici notre hôte qui sera aussi ton précepteur à partir de ce jour. Vous aurez affaire à une élève docile. Vous avez tout pouvoir sur elle.
Au dire d'Aristarque, le soleil est forcément situé au centre de l'univers. Et nous, la Terre, nous décrivons un cercle autour de lui.
On dit qu'il y en a eu 1 million dans tout le Moyen-Âge. Et au commencement de la Renaissance, on a brûlé les femmes jusqu'au XVIIe siècle. Et on les a appelées les sorcières.
Article 1er. La femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit.
Personne ne sait plus aujourd'hui qui est l'auteur de cette déclaration qui est d'un modernisme étonnant.
Ses droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et surtout la résistance à l'oppression.
On ne connaît plus le nom de l'âme de Gouges.
Eh bien, Simone de Beauvoir, ce gros livre, combien a-t-il de pages?
Je crois que le premier a à peu près 400 et le second quelque chose comme 600 pages.
Bon, par conséquent, nous obtenons un total de plus de 1000 pages.
Mais c'est Starlaw Eddy qui se chargerait elle-même d'acheter les fleurs.
D'acheter les fleurs.
Virginia Woolf.
Words, English words, in our houses, in the streets, in the fields. So many centuries, words belong to each other.
Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire.
Le silence est la meilleure façon de maintenir en place un ordre qui est lié à l'oppression. Les gens qui n'ont pas accès à la parole, ce sont les gens opprimés. Et vice-versa, n'est-ce pas?
Debout, debout, debout. Reconnaissons-nous les femmes. Parlons-nous, regardons-nous.
medley signé Stéphanie Texier. On vient de recevoir un message sur notre page Facebook d'Emma qui nous dit « Prof de philo aujourd'hui, je me souviens encore de l'accueil de l'un de nos éminents profs à la fac qui nous avait demandé à nous, étudiantes de philo, mais que faites-vous là, mesdemoiselles, allez faire plutôt des lettres modernes ou de la psychologie ?» Alors, Sven Hortoli, à partir du XVIIe siècle, les femmes conquièrent leur place dans la société savante, des salons des Lumières au club de la Révolution française. Les revendications féministes commencent à se faire entendre avec force. La pensée des femmes commence timidement à se faire entendre.
Oui, en réalité, il y a malgré tout un continuum, parce que Montaigne, par exemple, Marie de Gournay, c'est elle qui va faire l'édition de Montaigne, elle va publier elle-même un essai sur le féminisme, enfin, qu'on appellerait féminisme aujourd'hui. Mais au 17e, au 18e surtout, les salons, c'est évidemment très important pour la circulation des idées, et c'est là où les femmes vont investir à la fois deux zones, c'est une zone de pouvoir à travers les salons,
De Madame du Défend,
de Julie d'Espinasse, etc. Et aussi, c'est un aspect qui est crucial dans ce 18e siècle produit pas autant de pensées que le 17e du point de vue des sciences, en tout cas, c'est elles font de la trad. Elles commencent à traduire les philosophes, elles traduisent les scientifiques, elles traduisent les écrivains. Donc ça, c'est un des événements très importants pour les femmes, pour certaines femmes, en tout cas, au 18e siècle. Et puis, à la fin, vous citiez, on parlait d'Olympe de Gouges.
Figure majeure de la Révolution française.
Oui, c'est une des figures majeures. Alors, c'est devenu une figure majeure au 19e et encore plus au 20e siècle, parce que ça n'était pas à l'époque. Il y avait d'autres voix. Il y a beaucoup de voix, mais qui ont été bâillonnés en quelque sorte. Et Olympe de Gouges, elle a cette très belle phrase qu'on retient souvent, qui est belle, c'est « Les femmes ont le droit de monter à l'échafaud, il faut qu'elles aient le droit de monter à la tribune.
» Laurence Zeller.
Ah ouais, absolument. On ne peut pas dire mieux. Si on a le droit de monter à l'échafaud, on a le droit de monter à la tribune.
J'aimerais que vous évoquiez une figure méconnue du 19e siècle, Harriet Taylor Smith, la seconde femme du philosophe anglais John Stuart Mill. C'est bien son nom, Harriet Taylor Mill. J'ai dit Smith. Ouais. Harriet Taylor Mill, qui a écrit L'affranchissement des femmes en 1851.
Oui, alors, on le lit, le texte, et on se dit, elle a écrit hier, où elle a été invitée à l'émission d'Ali Ribéi. C'est terrible de dire ça, parce que généralement, on préfère dire que c'est daté ce texte. Mais pas du tout, et elle a des arguments. Enfin, moi, c'est une personnalité que j'affectionne particulièrement, parce que elle a des arguments que je trouve très subtils. Alors, polémique peut-être. Elle dit, par exemple, si on dit que le féminin, parce qu'il existerait quelque chose comme féminin, c'est la maternité, tout ce qui va avec, la sensibilité, etc., c'est très facile ensuite de cantonner les femmes dans une certaine région, qui est surtout pas, qui est la région du foyer, la cuisine en gros, mais qui peut surtout pas être la politique. Et donc je trouve qu'elle met là le doigt sur quelque chose, moi, qui me semble très important, c'est qu'encore une fois, parler du féminin est un piège. Parce que ça cantonne les femmes dans des régions. Et ça, si vous voulez, ça régionalise leur puissance. Les femmes sont très très bien, mais dans les soins, le psychologique, la cuisine.
Harriet Taylor Mill est donc une universaliste qui refuse d'être assignée à son sexe, à son identité, d'être cantonnée au séduisant et à l'aimable, à la sensibilité et à la bonté. Et elle revendique le droit, je la cite, le droit à la haine, à la méchanceté, au manque d'indulgence.
Absolument. C'est une rationaliste. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est le courant des rationalistes féministes. Et elle montre que ce qu'il faut d'abord faire comprendre, c'est que la raison n'a pas de sexe. Alors, ça paraît bête, mais voilà, le combat, c'est d'abord la raison n'a pas de sexe. Et ensuite, il n'y a pas de nature féminine ou masculine, donc les femmes ont autant le droit d'être méchantes, haineuses, bêtes.
Mais c'est un débat.
C'est un débat, c'est un débat,
parce que d'ailleurs vous publiez
au cœur du numéro.
Mais vous publiez d'ailleurs une cartographie des féministes, Sven Hortoli, la carte des féminismes avec la première vague, la deuxième vague et la troisième vague contemporaine. Et c'est une cartographie où ça débat, où ça se dispute, où ça vit, où ça pense très fort.
Justement, est-ce que ça, on pourrait avoir le droit nous les femmes de nous disputer. Vous voyez, déjà quand je dis ça, je me dis oui, évidemment, après on va dire les féministes, quand elles sont pas d'accord, elles se crêpent le chignon, etc.
Non,
est-ce qu'on peut polémiquer, est-ce qu'on peut réfléchir, est-ce qu'on peut avoir des débats
contradictoires et riches qui font avancer la pensée, pas simplement la pensée féminine, mais la pensée tout court. Les hommes, eux, ils ont le droit de polémiquer sans fin. Ça les rend soi-disant intelligents. Nous, dès qu'on n'est pas d'accord sur un débat, même un débat féministe, on nous dit tout de suite, ah, regardez, évidemment, vous n'êtes pas cohérente, vous ne formez pas groupe. On a le droit de réfléchir tranquillement sans qu'on nous demande, qu'on nous dise comment, en plus, il faut qu'on réfléchisse.
Isabelle Sorrente, richesse de la pensée féministe entre les constructivistes, les intersectionnels, les anticapitalistes, les écoféministes, les black féministes, celles qui sont plutôt partisanes du care, du soin.
Alors moi oui, je suis tellement d'accord avec ce que dit Guillemette parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont des féministes indiennes, donc en Inde c'est pas les mêmes problématiques et c'est pas les mêmes. Moi je crois plutôt aux archétypes, je crois à la culture, je dois avoir un petit côté jungien, je sais pas, mais donc je pense que en fonction des modèles culturels dans lesquels on vit, ça nous détermine en fait plus qu'on ne croit et du coup c'est disputatio quoi, ces dialogues. Ils sont très très riches. Moi, je suis plutôt une féministe mystique, par exemple. Donc, je crois à l'égalité spirituelle. Voilà. Mais on peut s'entendre avec les féministes rationalistes. Vous voyez, tout va bien.
Ouais. À partir de la révolution industrielle, des femmes vont affirmer puissamment leurs pensées, parfois les armes à la main. Je pense évidemment à Louise Michel, surnommée la Vierge Rouge, la Louve Noire. Louise Michel, dans ses mémoires, qui écrit « Notre place dans l'humanité ne doit pas être mendiée, mais prise ».
Oui, c'est un immense. Là, il y a du travail parce que faire le portrait de Louise Michel en 10 secondes, c'est une femme absolument extraordinaire. Et elle dit un truc rigolo parce que elle dit à un moment, elle reprend Molière et dit la femme est toujours le potage de l'homme. Et qu'est-ce qu'on peut dire sur elle à part cette anecdote-là, c'est que c'est une des plus grandes figures du 19e siècle pour moi, de la fin du 19e siècle. Voilà.
Guillemette Audicino.
Mais ce qui me frappe, c'est vous avez vu les surnoms qu'elle avait.
Oui, moi aussi.
J'allais Vierge et Louve. Alors Vierge, exactement. On va pas s'attarder là-dessus. C'est la figure pure et religieuse. Et la Louve, c'est évidemment la mère nourricière, etc. Je sais pas, on n'aurait pas pu l'appeler la soldate, la guerrière, la résistante.
Mais non, on peut
non,
pas.
C'est
dire...
la Vierge ou la Louve.
Mais oui, parce qu'on peut pas dire le féminin quand tout d'un coup le féminin ressemble pas à ce à quoi on voudrait qu'il ressemble. Donc on va utiliser chez les animaux ou chez les êtres surnaturels, la Vierge ou le loup. Parce que le féminin qui a de la puissance, c'est-à-dire qui en fait semble emprunter quelque chose qui lui est pas réservé, on sait plus comment le décrire.
Il nous reste une poignée de minutes pour évoquer quelques figures de penseuses. Qui avez-vous envie d'honorer, d'exhumer? Tiens, Isabelle Sorrente.
Alors moi, j'aurais envie de parler de Ingeborg Bachmann, qui est en fait une romancière allemande extraordinaire. Thomas Bernhard disait d'elle qu'elle était intelligente, que peu de femmes étaient intelligentes, mais qu'elle était vraiment, et que bon, c'était presque pas une femme, etc. Bon, et elle a écrit deux romans incroyables, un qui s'appelle Malina, l'autre qui s'appelle Franza, qui malheureusement sont pas republiés, mais qu'on peut trouver facilement d'occasion. Et à chaque fois, elle parle de cette étrange plasticité de l'esprit féminin et comment cette plasticité peut être à la fois un avantage, mais surtout un inconvénient tragique quand il y a une domination tyrannique, donc à chaque fois d'un homme dans les deux romans qui va lui donner une forme qu'elle ne désire pas.
Très profond. Rappelez le nom.
Ingeborg Bachmann et je parle pas allemand, alors j'ai peut-être un horrible accent, et les romans s'appellent Malina et Franza.
Zain Ortoli.
Rachel Bespalov, l'Iliade, parce qu'elle fait un portrait d'Hélène. Hélène ou la fatalité érotique, c'est publié chez Alia, ça coûte 6 ou 7 euros. C'est un texte magnifique et c'est en plus un texte où elle montre Hélène et le malheur qui s'abat sur elle, le malheur d'être désirée, elle le dit elle-même, elle se fustige. Je préférerais être morte. Elle se fustige, elle dit regarde chienne, etc. Elle est l'essence même de la question du désir aujourd'hui.
Laurence de Villers, vous avez exhumé Harriet Mill.
Alors, est-ce que j'ai le droit de citer un personnage de dessin animé, c'est la petite rousse rebelle, parce que je trouve qu'on fait beaucoup de dégâts avec les héroïnes de dessin animé. Ma petite nièce est folle de la Reine des Neiges, et je trouve que c'est atroce le modèle féminin que ça véhicule. C'est une poupée, voilà.
Guillemette Odissine.
Ah oui, c'est fou. Alors, c'est fou que tu dises ça, parce qu'effectivement, la Reine des Neiges est censée être féministe. Alors, va, tu vas m'expliquer pourquoi. Non, en revanche, effectivement, l'héroïne de Disney, oui, à peu près féministe, c'est rebelle.
C'est rebelle.
Ben, moi, j'aimerais rendre hommage, évidemment, à Virginia Woolf. Une chambre à soi est sans doute l'un des, finalement, des essais, des textes les plus féministes, les plus vibrants, mais aussi les plus personnels sur la nécessité d'avoir sa pensée tranquille et de pouvoir être à la marge, de revendiquer ça, d'avoir le temps de penser, le temps d'écrire, le temps de trouver les mots pour exister. Donc c'est vraiment un texte fondamental. Après, je voudrais dire que Buffy contre les vampires est une série absolument essentielle, parce que évidemment on est dans le domaine des vampires, des sorcières, des machins, des trucs, mais et le dernier épisode de la série, c'est quand même Buffy qui donne son pouvoir à toutes les femmes de l'humanité. Ouais. Si ça, c'est pas un geste de sororité, je ne vois pas. Et puis derrière, puisque là, c'est une image de sororité, aujourd'hui, maintenant, Adèle Haenel, bon sang, ce courage. La comédienne Adèle Haenel, qui prend de son cas particulier et douloureux, qui part de là et qui
donne la pensée.
Qui donne, voilà, qui génère de la pensée. On n'est pas dans la plainte, on n'est pas dans le jugement, on est dans la pensée la plus importante, la plus constructive. Constructive pour justement déconstruire un certain système.
L'heure est passée, hélas, beaucoup trop vite. Vous pouvez lire avec beaucoup de profit La puissance des femmes, une autre histoire de la pensée, leur série de Philosophie Magazine, actuellement en kiosque. Isabelle Sorrente, merci. Votre roman Le complexe de la sorcière sort chez Lattès le 8 janvier prochain. Merci beaucoup. Laurence De Villers, votre livre Être quelqu'un de bien est toujours disponible en librairie. Merci Guillemette Odissino. Lundi, d'abord merci à la programmation, à la belle programmation de Muriel Pérez, aux standardistes de France Inter. Lundi, on s'intéresse aux compléments alimentaires. Sont-ils vraiment utiles? Sont-ils sans danger pour notre santé? Quelle est leur véritable efficacité? Standard ouvert dès lundi au 01 45 24 7000. À la technique ce matin, il y avait des indispensables Elisabeth Collet et Kevin Pelot.